aime l'été. Aime l'été, édition du 31 et dernier jour de juillet 2017. Et comme vous l'entendez, ce n'est pas Clotilde Seil qui sera avec vous pour la prochaine heure, mais bien son triste remplaçant, François Brodeur. Voilà, je l'ai dit. À la mise en onde de cette émission, je le remercie tout de suite, comme ça je ne l'oublierai pas. Jean-Sébastien La Liberté. Bonjour Jean-Sébastien. Une émission pleine comme un œuf aujourd'hui encore, où on va pouvoir parler d'une journée spéciale à la ronde pour les autistes. On parlera également beaucoup de nanisme, puisqu'il va y avoir des jeux grandioses en Ontario, opposant des athlètes qui souffrent de nanisme. Et il y aura également d'un colloque, et tout ça avec Karine Villeneuve, qui est directrice de l'Association des petites personnes. On a enfin un sujet sur la sclérose en plaques, puisqu'une athlète a accroché ses running shoes à Sherbrooke, mais elle nous parle de ses dernières expériences. Tout ça, ça commence dans quelques instants. On commence tout de suite avec une nouvelle qui finalement pourrait dépanner les parents de personnes qui souffrent d'autisme ou qui connaissent la condition d'autiste ou qui souffrent de troubles du spectre de l'autisme selon toutes les terminologies en vogue, puisque Catherine Montembeau du Journal de Montréal signe un texte intitulé « Des chercheurs veulent aider les parents d'enfants autistes ». Injection de vitamines, analyse d'ADN, régime farfelu. Des chercheurs montréalais découragés de voir des proches d'autistes tenter toutes sortes de traitements douteux lancent une plateforme web pour distinguer le vrai du faux. En apprenant que sa fille de 2 ans, Alice, était atteinte de troubles du spectre de l'autisme, Annick Landlois a entamé des recherches pour essayer de la guérir. Après avoir lu le livre « L'autisme n'est pas irréversible » d'Evelyne Classens, j'étais convaincu que c'était possible de guérir l'autisme, alors que je sais maintenant que ce n'est pas le cas. J'ai cru ça pendant au moins 4 ans, a expliqué la maman de la chute. Selon l'état des recherches actuelles, l'autisme n'est pas une maladie. On ne peut donc pas parler de traitement ni de guérison. Pourtant, ce mythe persiste sur le web et dans certains ouvrages, tout comme le fait d'associer ce trouble neurodéveloppemental à la vaccination ou à la consommation de gluten. C'est pour mettre fin à ces fausses croyances que la plateforme web Myelin sera mise en ligne dès octobre. Développée par des chercheurs de l'Université de Montréal et de Polytechnique, elle fournira des réponses aux questions posées en se basant sur la science. En effectuant mes stages en psychoéducation, j'ai constaté à quel point il y a une souffrance pour les personnes autistes et leur entourage de ne pas avoir accès à la bonne information, a dit Marc-Olivier Schull, doctorant à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Le chercheur explique qu'à peine 14% de l'information scientifique est réellement utilisée et qu'il s'écoule en moyenne 17 ans entre la publication de résultats scientifiques et leur application. Selon lui, plusieurs charlatans profitent de la vulnérabilité des personnes diagnostiquées de leurs proches pour leur faire avaler toutes sortes de balivernes. C'est ce qui est arrivé à Annick Landlois, qui a souvent modifié l'alimentation de sa fille en se fiant au web. On a fait des régimes sans gluten, sans lactose. On lui a donné des vitamines. Je suis allé jusqu'à lui injecter de la vitamine B12, a-t-elle raconté. Madame Landlois envoyait aussi régulièrement des cheveux et des échantillons d'urine de sa fille à des laboratoires américains, toujours dans l'espoir d'un traitement miracle. Pour l'instant, Marc-Olivier Schull et son équipe doivent extraire eux-mêmes l'information des documents qui sont publiés sur l'autisme et les insérer dans Myelin. L'intelligence artificielle peut ensuite se servir de ces données pour répondre aux questions des internautes. Mais en fin de compte, le Montréalais souhaiterait que l'outil soit capable de réaliser cette opération par lui-même et devienne donc complètement autonome. On aimerait aussi étendre le projet à tout ce qui concerne la santé mentale, a-t-il indiqué. On voudrait d'abord inclure le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, le TDAH, puis l'anxiété, la dépression et tout le reste. Le choc que vivent les parents en apprenant que leur enfant est autiste peut rendre la recherche d'informations véridiques encore plus complexe, fait valoir la Fédération québécoise de l'autisme. Les gens sont souvent dans un état émotif qui fait que ça peut être difficile de faire de bons choix et de distinguer les faits des simples croyances, a mentionné Joanne Lauzon, la directrice générale de l'organisme. Nous, on travaille beaucoup à vulgariser l'information et à développer des outils, a-t-elle ajouté. Quand un parent nous appelle, on l'oriente vers les ressources de sa région où il va pouvoir rencontrer des spécialistes et des familles qui vivent la même chose que lui. Même si son site web offre déjà de l'information fiable, la FQA soutient le projet Myéline en soulignant qu'il ne peut jamais y avoir trop d'aide. Annick Landlois, la maman d'une jeune fille autiste, confirme que des parents sont fragiles après le diagnostic. On essaie d'aller chercher tout ce qu'on peut pour aider nos enfants, a-t-elle souligné. Et souvent, dans notre désespoir, on a tendance à prendre tout ce qu'on peut trouver. On se rend en Italie pour rencontrer un inventeur italien qui s'appelle Mario Vigantini. Et Mario Vigantini, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé un nouveau fauteuil appelé Mario Way. Un texte d'Anaïs Chabalier sur le site Top Santé. Mario Way est un fauteuil roulant nouvelle génération qui dispose d'une assise plus haute et qui se manœuvre sans les mains. Un outil d'intégration sociale. Voilà comment Mario Vigantini, ancien éducateur auprès de jeunes handicapés, décrit à l'AFP le fauteuil roulant qu'il a créé. Son invention, baptisée Mario Way, est inspirée des 7 jouets, ces deux roues très appréciées des touristes qui permettent de se déplacer tout en restant debout. Segway, je crois qu'on dit. L'objectif, changer le rapport au monde des personnes handicapées. Cette idée, il l'a eue en voyant les regards pleins de préjugés que les autres posaient sur les jeunes handicapés avec qui il travaillait. Pour changer les choses, il a donc pensé à un fauteuil roulant nouvelle génération doté de plusieurs particularités. Il a une assise plus haute qui permet aux personnes handicapées de réaliser des tâches de la vie quotidienne. Dans un fauteuil traditionnel, la personne se trouve dans une posture où tous les angles sont fermés. Les organes de la partie haute du tronc sont compressés et la quasi-totalité du poids repose sur les chions. Mario Way, fait exactement le contraire. Tous les angles sont ouverts et la partie haute du tronc est redressée, explique Mario Vigantini à l'AFP. Mais ce n'est pas tout. Ce fauteuil se manœuvre sans les mains puisqu'il dispose de capteurs qui identifient la position du corps, permettent aux personnes handicapées de le commander en se penchant légèrement vers l'avant ou vers l'arrière. Mario Way, qui a été présenté en juin dernier au ministre des Transports du G7 à Cagliari, en Italie, coûte 19 300 euros, ce qui fait à peu près quand même 25 000 $. Mais son inventeur assure faire tout son possible pour atteindre un prix plus démocratique. Objectif, le vendre aux alentours de 10 000 euros ou 15 000 $. Je rejoins immédiatement Karine Villeneuve. Bonjour, Madame Villeneuve, vous allez bien?
Oui, très bien, merci.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'Association québécoise je ne me rappelle plus la formulation que j'avais utilisée, mais ce n'était pas la bonne, puisque vous êtes directrice de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Voilà.
Exact.
Et vous allez nous parler, Madame Villeneuve, de jeux, mais de jeux très particuliers.
Oui, en fait, dans quelques jours, pour être précis, dans 4 jours, il va avoir lieu les 7e Jeux mondiaux pour personnes de petite taille, alors des personnes qui ont de nanisme. Cette année, qu'est-ce qui est spécial, c'est qu'ils vont se tenir au Canada, à Guelph, en Ontario. C'est plusieurs athlètes de partout, amateurs et professionnels de partout dans le monde qui ont une forme de nanisme, qui vont converger vers Guelph et participer à plusieurs compétitions.
On parle de combien d'athlètes au total?
Environ, on s'attend même à entre 400 et 500 athlètes. Ça va être une des plus grandes éditions, puisque même des pays là, qui n'étaient pas là auparavant, là, entre autres, il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, la France, le Canada, bien sûr. Mais même des gens de l'Inde, pour la première fois, vont, entre autres, participer à cette édition.
Permettez-moi un moment de chauvinisme. Y a-t-il une délégation québécoise, ou en tout cas une participation québécoise à la délégation canadienne?
Bien sûr, bien qu'elle ne soit pas très grande, on a officiellement parmi nos membres chez nous 4 personnes qui vont participer. Alors, nous avons 2 adultes et 2 enfants qui vont participer là, à l'événement.
Mm-hmm. Est-ce que vous savez dans quelle compétition?
Oui, ben en fait, je peux vous les présenter.
Ah oui, allez-y.
Il y a Bruno Labonté, 35 ans, de Montréal-Nord, qui, lui, va être à sa 2e édition. Il avait participé en 2001, lorsque les Jeux étaient à Toronto. Alors, lui, il va participer dans les disciplines de soccer, basketball, le boccia et le badminton. Nous avons aussi Cathy Besnard, 28 ans, de Coteau-du-Lac, qui, si je me rappelle, elle participera au poids et halter, il y a 2 autres, je crois que c'était le volleyball, je suis pas trop sûre. Mm-hmm. Et ensuite, nous avons Garance Drolet, une jeune fille de 10 ans de Montréal, qui va participer pour la toute première fois dans des disciplines en athlétisme. Et finalement, on a Colline Cloeta, 12 ans, de Baie-d'Urfée, qui, elle non plus, n'est pas à sa première participation. Elle a participé il y a 4 ans, quand les Jeux ont eu lieu au Michigan, et qui avait d'ailleurs même gagné plusieurs médailles. Et elle va se concentrer cette fois-ci surtout en natation, puisque Colline participe souvent à des compétitions de paranatation. Là, même. Mm-hmm. Elle a été dans l'équipe canadienne là, pour les derniers Jeux Paname. Alors, on peut dire qu'on a des bons représentants.
De réels espoirs de médailles, donc, et oui. On en sera très heureux. Dites-moi, des jeux pour les personnes de petite taille, pourquoi?
En fait, les jeux sont d'abord, bien qu'il y ait quand même des professionnels qui se présentent, mais c'est surtout un côté amateur. C'est vraiment pour permettre aux personnes qui vivent avec une forme de nanisme de pouvoir faire des activités sportives et de pouvoir compétitionner avec des gens du même gabarit. Et aussi, bien sûr, il y a le côté un peu social, pouvoir échanger avec d'autres personnes comme nous et les membres de la famille là, un peu partout dans le monde. Il y a un côté aussi reconnaissance, ou parler, c'est une façon aussi de parler du nanisme, de qu'est-ce que le nanisme. Mais aussi, vraiment, c'est ça, permettre aux gens de pouvoir faire des activités sportives, selon leurs limites, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que le nanisme, c'est d'abord des conditions médicales particulières, mais ce qui n'empêche pas les personnes qui vivent avec ça de faire du sport et même de compétitionner, même à des niveaux paralympiques.
Mm-hmm. J'ai une question comme ça, toute bête. Voyez-vous, j'ai fréquenté à une certaine époque les gyms et ça paraît plus du tout, je vous rassure tout de suite. Puis je vois bien que des infrastructures conçues pour accueillir des personnes de petite taille ou des machines conçues pour leur permettre de s'entraîner, ben ça n'existe pas.
Presque pas, je vous dirais. C'est sûr que les gens qui veulent faire du sport, ça va être vraiment sur mesure, du cas par cas, de l'ouverture. Parce qu'il n'y a pas vraiment, d'une part, il n'y a pas vraiment d'endroits spécialisés. Là. C'est sûr qu'il y a des endroits comme avec ici Bruno à Viomax qui peut offrir des services pour les personnes en situation de handicap. Mais pour vraiment répondre aux besoins des personnes ayant le nanisme, c'est vraiment, c'est pas évident. Ça va dépendre aussi de chaque personne, de chaque individu, mm-hmm. de ses limites. Souvent, les gens qui font du sport vont trouver, peut-être essayer de trouver des gens ouverts dans le milieu de l'entraînement qui vont pouvoir essayer d'adapter les exercices pour eux. C'est un peu comme ça qu'on essaie de bâtir. C'est ça, avec le bouche-à-oreille, on a des gens quand même qui s'entraînent de façon sérieuse et c'est un peu la façon qui procède.
Mm-hmm. Et est-ce que ça appelle une intervention professionnelle particulière, je pense, en physiothérapie ou à la vie médicale?
Bien sûr qu'il faut quand même faire attention. Je veux dire, comme je vous ai dit, le nanisme, c'est d'abord souvent des maladies osseuses. Il faut quand même y aller avec des limites. C'est sûr qu'on peut travailler avec des kinésiologues, des physiothérapeutes, des nutritionnistes là, pour être bien suivi de façon adéquate. Là.
Mm-hmm. Alors, rappelez-nous en terminant, les Jeux mondiaux, c'est...
Oui. Alors, ça débute prochainement le 4 août. À Guelph, en Ontario, avec il va y avoir les cérémonies d'ouverture. Et pendant toute plusieurs jours jusqu'au 12. Alors, il y a chaque jour, il y a des compétitions. Les gens peuvent suivre ces compétitions-là, même s'ils ne sont pas sur le site de l'Université de Guelph. Alors, on peut aller sur le site des Jeux mondiaux et il va y avoir des liens YouTube en direct, entre autres, là, où on peut suivre. Et même, j'ai su que même Ami Télé, la version anglophone de Ami Télé va présenter, je pense, en direct là, les compétitions de l'athlétisme. Là, alors, je pense sur le site Internet. Alors, peut-être la meilleure chose, c'est d'aller carrément sur le site que je vais vous donner l'adresse, là, qui est c'est worldwolfgames2017.org. Alors, toutes les informations sont là, mais nous, si vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook à la QPPT, on va mettre tous les renseignements. Là,
ah bien, c'est parfait. Madame Villeneuve, c'est tout le temps qu'on a pour l'instant, mais on se donne rendez-vous vers la fin de l'émission pour pouvoir parler du colloque et éventuellement des conditions de santé propres aux personnes de petite taille.
Parfait, merci beaucoup.
À plus tard.
Au revoir.
Car qui soupire un détonateur livre l'amour à toute chaleur qui fournit la poudre et qui l'allumeur. Personne ne sait ni comment, ni où, ni quand nos lèvres touchent à la bouche du volcan. Viens-t'en, va-t'en, viens-t'en, passer la lune, y a le néant. Viens-t'en, va-t'en, viens-t'en, derrière la dune, c'est l'océan. Est-ce une chambre, est-ce une cage? Enjôle-moi, belle jolière. Suis-je en avance pour le carnage? La lune est haute, elle est pleine, elle est sincère. Mes amours, mes samouraïs, quoi faire? Viens-t'en, va-t'en, viens-t'en, mon cœur de fer et ton aimant. Viens-t'en, va-t'en, viens-t'en, dévore-moi doucement. Suis-je la flamme de ta bombe? Est-ce que je vole ou si je tombe? Est-ce le serment d'une seconde? Préfères-tu que je t'aime ou que je t'adore? Pour la nuit ou pour la vie, trop tard. Viens-t'en, 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 je te crois même quand tu mens. J't'haïs, j't'haïs, j't'haïs.
La poésie de Richard Desjardins, L'Enjôlière, servie par les Sœurs Boulay dans une interprétation magnifique. Et parlant de choses magnifiques, on va parler de la ronde et de la magie de la ronde quand elle s'adresse aux enfants qui doivent vivre avec une condition particulière. Et pour nous en parler, on a en ligne Joanne Lauzon. Madame Lauzon, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, merci vous-même.
Ah oui, très bien, merci. Et on a également Madame Perronne, qui est directrice des communications de la ronde. Bonjour, elle est en studio.
Bonjour.
Vous allez bien aussi?
Oui, et vous?
Bon, extra. Une journée comme aujourd'hui, si je me plains, là, je me demande vraiment ce qui va me retenir. Alors, il y a un événement spécial. Qui veut m'en parler en premier?
Ah bien, je peux certainement Allez-y. Vous dire ce qu'on fait. On est très, très, très heureux de recevoir la Fédération québécoise pour l'autisme dimanche. Dimanche, mon Dieu, ça arrive vite!
Oui!
Donc, dimanche, le 6 août, on recevra, je crois, environ 500 personnes. Et en fait, c'est un événement, on reçoit tout le monde toute la journée, vraiment de 11h à 21h. Et on voulait faire ça parce qu'on on aime bien recevoir des groupes, on aime faire connaître la ronde à tout le monde. Et on voulait faire connaître aussi notre programme d'accessibilité vraiment recevoir tout le monde et faire vivre une belle journée aux membres de la Fédération.
En pratique, pour un enfant qui souffre de troubles du spectre de l'autisme, qu'est-ce qui différencie sa visite finalement de celle d'un enfant qui se pointerait au guichet dimanche tout à fait normalement avec ses parents?
Ce que je dirais, c'est que c'est l'idée d'attente. Donc, quand on attend dans un manège, des fois, on peut attendre quand même une demi-heure, une heure. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'enlever ce moment-là qui peut être très stressant, non seulement pour la personne qui vit avec l'autisme, mais aussi pour les parents. Donc, c'est pour ça qu'on offre la possibilité soit d'obtenir un rendez-vous au moment d'arriver au manège et de revenir quand c'est le temps, ou simplement de passer tout de suite. De cette façon, la journée est beaucoup moins stressante pour toute la famille.
OK. Il n'y a pas d'attente, donc il n'y a pas de temps perdu dans des fil, ce qui peut ne pas être facile, disons-le franchement, dans certains cas d'autisme.
Il y a l'attente, puis il y a aussi les bruits, la lumière, l'excitation, c'est beaucoup, beaucoup de stimulation. Et la ronde a un petit air de repos qui est réservé pour les familles. Et quand l'enfant devient surexcité, puis que c'est trop de stimulation, ils vont dans ce petit coin-là et on prend le temps de revenir à soi, si on veut, là, de se calmer, puis après ça, on peut y retourner. Le fait d'avoir un endroit où ils mangent tous ensemble, un air de lunch aussi, c'est aussi très apprécié. Puis l'an passé, je ne sais pas cette année, mais c'était un petit peu en retrait. Donc, on n'avait pas de la... Tu sais, la ronde, ça reste un milieu où il y a beaucoup de musique, tout ça. Mais en retrait comme ça, là, c'était vraiment très, très bien. Là.
Mm-hmm. J'ai un peu honte de tenir cette entrevue aujourd'hui, puisque je réalisais en regardant mes notes ce matin qu'on avait jusqu'au 28 juillet pour réserver sa place. Est-ce à dire que c'est complètement fermé ou...
Je dirais que les derniers chiffres sortaient demain, le 1er août. Je pourrais vérifier pour voir si on a encore quelques petites places. On en avait quelques-unes encore quand on s'était parlé vendredi.
OK, donc hâtez-vous si c'est possible. Essayez, voir, parce qu'il y a quand même un tarif préférentiel.
Absolument, c'est 26,50 pour la journée, ce qui inclut un lunch et les accompagnateurs entrent gratuitement.
Et un accompagnateur par enfant.
Absolument.
Oui.
Mm-hmm.
Pour y avoir participé l'année passée, moi, je peux vous dire qu'il y avait près de 500 personnes, puis les invités ont été ravis. Là. Le personnel de la ronde était professionnel, gentil aussi, à l'écoute. Le fait d'avoir une entrée réservée quand on arrive aussi, là, ça passait plus rapidement. L'idée aussi d'avoir une accessibilité plus rapide au manège, l'air de lunch, l'air de repos. On a reçu, je vous dirais, entre 30 et 50 commentaires là, par courriel. Les gens ont vraiment pris la peine de nous réécrire par la suite. Là. Et ils nous disaient que pour une famille au complet avec un enfant autiste, c'est difficile d'aller à la ronde. Puis ce coût abordable-là, ça avait été vraiment un plaisir de pouvoir aller tous ensemble à la ronde. Ils avaient beaucoup, beaucoup apprécié. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes autistes sur le site, puis que ça soit marqué un peu partout, journée de sensibilisation à l'autisme, il y avait moins de regards de curieux aussi, là, tu sais.
Mm-hmm.
Des fois, les gens nous regardent un peu bizarrement, mais là, c'était comme normal, cette journée-là. Donc, vraiment, les gens ont beaucoup, beaucoup apprécié. J'étais avec une personne de la ronde, là, à l'entrée du lunch, le midi, et les gens se levaient puis venaient nous voir, puis vous êtes les organisateurs, merci beaucoup, tu sais. Ils étaient vraiment ravis. Puis, il y avait des adultes, il y avait des jeunes enfants. C'était vraiment une belle journée.
Mmh, c'est aussi un grand moment d'échange pour la communauté.
Oui, puis c'est ça. Nous, à la Fédération, on a été ravis de ce partenariat-là avec la ronde. Là. On est très fiers de ça. On ne savait pas à quoi s'attendre l'année passée, puis on était d'agréables surprises en agréables surprises. Ça a vraiment été très, 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 très agréable comme journée. Mmh.
On vous promet la même chose cette année encore, bien entendu.
On n'en doute juste même pas. Là. C'était tellement bien l'année passée. Là.
Alors,
nous, on avait juste des points positifs.
En pratique, vous imprimez le billet que vous avez réservé sur Internet, vous vous présentez avec ce billet-là que vous conservez, vous vous dirigez vers une table spéciale en rentrant?
Oui, il y a une entrée village et il y a un espace qui est réservé seulement pour les membres de la fédération et les invités.
Et on vous munit à ce moment-là d'une espèce de passe qui vous permet de couper les fils, c'est-à-dire qu'on reconnaît votre qualité.
C'est un certificat d'accessibilité au manège et donc les gens, on aura ces certificats-là qui seront déjà disponibles, on remplira avec les noms et les gens auront donc ce certificat-là pour se promener toute la journée. C'est un certificat qui est disponible en fait en tout temps.
Ça se faisait rapidement l'année passée. Là.
Et je vais en profiter pour en parler parce que c'est quand même assez méconnu. C'est-à-dire, un, c'est pas réservé aux seuls autistes, ce certificat-là, aux seuls autistes. Et c'est quand même quelque chose que les gens connaissent assez peu.
Non, c'est vrai. Et c'est un peu pour ça qu'on voulait faire connaître ce programme-là. On est bien content d'offrir ça. On veut que tout le monde puisse profiter d'une belle journée à la ronde et on se donne les outils pour justement avoir cette capacité-là d'accommoder tout le monde. Donc, un certificat d'accessibilité au manège, c'est accessible à tout le monde qui se présente au comptoir de service à la clientèle avec un certificat médical à cet effet et pourra recevoir ce certificat d'accessibilité-là pour profiter de sa journée.
Et le certificat médical doit attester de quoi? Que l'enfant ou la personne souffre d'une condition particulière, d'un handicap, d'une maladie dégénérative?
Même pas besoin de le mentionner. Ça peut simplement dire quelles sont les incapacités ou les choses que la personne n'est pas en mesure de faire. Et avec ça, nous, on est capable de déterminer exactement comment l'accommoder.
OK. Je vais vous poser une question terrible, là, parce que il y a handicap et handicap, puis on imagine mal, effectivement, accrocher un fauteuil roulant dans un manège. Il y a quand même des handicaps qu'on ne peut pas accommoder, c'est-à-dire des gens qu'on ne peut pas faire monter dans certains manèges. Est-ce qu'il y a de véritables efforts, je pense, à des questions de mobilité, d'accessibilité au fauteuil ou encore d'instructions particulières pour les malentendants ou les non-voyants?
On essaie vraiment de recevoir tout le monde. Cette visite-là au comptoir de service à la clientèle, c'est là où la personne, notre préposé, va être capable, va être en mesure de dire à cette personne-là quels manèges sont ouverts à elle, quels endroits elles peuvent accéder facilement. On a des manèges sur notre application mobile. Ça indique si un manège est accessible pour les gens en fauteuil roulant ou si ça nécessite même un transfert. Donc, cette icône-là est là. Les gens peuvent savoir à l'avance comment faire.
Et dans tous les cas de figure, la sécurité et la priorité première.
Absolument.
Bon. Eh bien, Mesdames Lauzon et Madame Perron, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une belle journée dimanche, beaucoup de soleil et beaucoup de rire.
On a bien
Merci
hâte.
Beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Aime l'été. Deuxième partie d'une émission où Clotilde Seille, vous l'entendez, n'est pas là. Alors, avec vous pour la prochaine demi-heure, François Brodeur. On enchaîne immédiatement avec le nanisme, encore, mais pas encore assez à mon goût, parce que c'est quelque chose dont on pourrait parler pendant des heures. Et on a rejoint donc à nouveau Madame Villeneuve. Pas Villeneuve, qu'est-ce que je fais là? Moi, je dis n'importe quoi. Oui, Villeneuve, c'est ça. Karine Villeneuve, bonjour.
Oui, c'est bien ça.
Oui, non, je m'excuse, je suis très confus dans mes noms. On se reparle à l'occasion d'un colloque que vous êtes en train d'organiser. Dites-nous à quelle occasion?
Alors nous, d'abord, l'Association des personnes autistes existe depuis 40 ans. On vient de finir notre 40e année de célébration de notre fondation. Alors pour un peu clôturer tout ça, on a décidé d'organiser un colloque sur le nanisme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un. Il y en avait un qui a été réalisé en 2002. Et celui-là, on l'axe vraiment sur les enjeux en santé et services sociaux chez les adultes ayant le nanisme. Alors, parce que bien que au niveau pédiatrique au Québec, Les personnes à petite taille, enfants, ont de très bons suivis dans des centres spécialisés tels que Sainte-Justine ou l'hôpital pour enfants de Montréal. Il en demeure que pour les adultes, c'est un petit peu plus compliqué. Souvent, on est laissé un peu à nous-mêmes. Beaucoup parmi nous ne connaissent pas nécessairement les complications possibles de notre condition. Parce que c'est un peu ça, le nanisme. C'est mm-hmm. tellement très méconnu encore.
Oui, on a l'impression qu'il y a finalement un, à la limite, deux genres de nanisme différents. Mais
exactement.
C'est mais beaucoup plus varié que ça.
Exactement. Il y en a des centaines. Et souvent, les gens s'arrêtent qu'à la petite taille. Souvent, on va nous dire, oh, vous êtes juste petit, vous n'êtes pas une des personnes handicapées. Mais le nanisme, entre autres, c'est comme je vous ai dit, c'est une centaine de maladies rares, dans le fond, mm-hmm. qui va causer des complications médicales et des limitations fonctionnelles plus ou moins sévères, et dont le point commun, bien sûr, c'est une affectation au niveau d'un retard de croissance significatif. Mm-hmm. Mais quand on parle de complications, ça peut être des problématiques au niveau des hanches. Plusieurs de nos membres vont avoir des remplacements de hanches au cours de leur vie à cause de l'usure prématurée. Au niveau de la colonne vertébrale aussi, si on ne fait pas attention, on peut avoir des gens qui peuvent même aller jusqu'à la paralysie. Donc, il y a vraiment des choses qu'il faut tenir compte. Et l'idée du colloque, c'est de pouvoir permettre à nos membres, les personnes à petite taille, et aussi aux professionnels de santé, de se pencher un peu sur les problématiques. Mm-hmm. Tant au niveau service spécialisé, on va toucher à la neurochirurgie, l'orthopédie, la recherche, la génétique, mais aussi le côté préventif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien quand on a une forme de nanisme pour justement prévenir les problématiques là, de cet ordre.
Est-ce que les professionnels qui sont appelés à intervenir, je pense aux orthopédistes en particulier, sont des gens qui sont spécialement formés pour faire face à la condition de nanisme?
En fait, c'est très dur d'être spécialisé en nanisme, et mm-hmm. encore plus au Québec, bien sûr. Nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire à l'association, c'est que quand on a des gens, des spécialistes, que ce soit un neurochirurgien ou un orthopédiste, qui a déjà vu des personnes de petite taille, bien, s'il y a un intérêt, on peut alors référer d'autres personnes et développer ainsi une certaine expertise sans le vouloir. Mm-hmm. Souvent, ça va être des spécialistes qui travaillent déjà en milieu pédiatrique spécialisé et qui vont peut-être, au niveau adulte, peuvent nous voir dans d'autres institutions de la santé. Mais c'est très dur, parce que comme je vous dis, c'est très vaste, c'est très rare aussi, alors que des gens qui se spécialisent là-dedans, c'est un peu difficile.
En médecine interne également, il y a des problèmes qui sont propres aux gens qui ont la condition.
Bien sûr, c'est sûr que les gens qui ont une condition peuvent, comme je l'ai dit, avoir différentes complications mm-hmm. qui peuvent toucher plus ou moins sévères d'une maladie osseuse à une autre. Certains peuvent avoir une santé assez bien, d'autres, ça peut être des maladies qu'on dit évolutives. Si on parle, par exemple, du syndrome de Morquio, mm-hmm. d'autres peuvent avoir des affectations comme une insuffisance rénale peut causer une forme de nanisme. Alors, et bien sûr, ça va causer d'autres problématiques hein, si les personnes n'ont pas une greffe à ce moment-là. On a des membres chez nous qui sont multi-handicapés, comme on dit, mm-hmm. qui, en plus d'une courte taille, vont avoir des problèmes au niveau auditif, au niveau visuel, rarement une déficience intellectuelle aussi, là, mais c'est ça. Règle générale, il y a vraiment des considérations à prendre.
Ce qui pose des problèmes très particuliers à chaque fois. Si on parlait un peu des ressources disponibles, bon, vous nous avez dit d'entrée de jeu que pour les enfants, limite, il y avait du monde, il y avait des ressources pour les rencontrer et les suivre.
Exactement.
Mais pour les adultes?
Ben, c'est ça que nous, à l'association, on travaille fort, justement, à repérer des spécialistes qui vont pouvoir nous suivre. C'est vraiment le travail, le gros dossier qu'on met de l'avant là, depuis plusieurs années ici, mm-hmm. Pour que nos adultes puissent être suivis par des spécialistes et ces gens-là puissent accepter de prendre des gens qui ont une nanisme. Ouais.
Bâtir votre réseau dans le réseau, finalement.
Exactement, c'est sûr.
Et on parle de combien de personnes visées au Québec?
c'est sûr, c'est difficile de mettre un chiffre exact, puisqu'on, comme on dit, chaque maladie a sa propre prévalence.
Mm-hmm.
Mais selon les chiffres qu'on a, ça, on parlerait peut-être d'environ 3500 personnes de petite taille, tout nanisme confondu.
Mm-hmm. Et le colloque que vous projetez veut aussi aborder les questions de services sociaux. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers?
Bien, que ce soit au niveau de l'adaptation de notre milieu de vie, la nutrition, la physiothérapie, on veut vraiment, ça c'est un peu l'aspect prévention, travailler un petit peu le côté, c'est ça, les suivis là, quotidiennement. Bien sûr, il y a d'autres problématiques que le nanisme peut faire, mais malheureusement, on n'a pas le temps de le faire au colloque. C'est tout le volet social
mm-hmm.
qui est vraiment très, très présent chez nous. Le regard, entre autres, les préjugés. Mais ça, c'est on fait d'autres activités, entre autres, avec le mois du nanisme, là, pour contrer...
Donc, ça ne sera pas à proprement parler abordé sur le plancher du colloque. Si vous aviez un souhait à formuler, là, mettons que vous avez la possibilité d'asseoir Gaëtan Barrette devant vous, là, et il n'a pas le droit de se lever avant que vous lui ayez parlé, vous lui demandez quoi?
Bien, en fait, nous, on voudrait que au Québec, les personnes, les adultes qui ont une forme d'anémie puissent avoir accès justement à des soins et des suivis aussi plus préventifs au niveau de la condition. Nous, on veut bâtir, on veut, avec le système de la santé, je comprends que c'est limité, mais on veut aider afin que nos membres puissent de façon plus facilement. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on veut aussi que les propres personnes aussi se prennent elles-mêmes en charge aussi, puissent connaître leurs problématiques, les signes, les symptômes, quand les consulter.
Mm-hmm.
Enfin, on veut vraiment travailler les deux aspects, autant le système de santé que les individus aussi qui vivent la condition.
Oui, parce qu'il faut bien dire, le meilleur gestionnaire du dossier médical d'une personne, c'est encore la personne elle-même, et c'est ouais. surtout vrai quand vous avez des problèmes qui sont des maladies rares.
Mm-hmm.
Bien souvent, c'est à vous d'informer le réseau de la santé de votre condition et des particularités qui s'y rattachent.
Exact. Et l'association fait beaucoup de travail en ce sens et accompagne aussi les personnes aussi là, dans leur démarche. Là. Nous, on est toujours présents là, avec les personnes
Alors,
à ce niveau.
En terminant, Mme Villeneuve, oui. Le colloque, c'est oui. Quand, c'est pour qui et c'est où?
Alors, c'est le samedi 30 septembre prochain. Ça va avoir lieu à l'hôtel Gouverneur Place du Puy à Montréal.
Mm-hmm.
Alors, toute la journée, de 8h30 à 17h. C'est bien que toute personne intéressée par le nanisme soit la bienvenue. Bien sûr, c'est destiné d'abord aux adultes vivant la condition et les parents aussi, ainsi que les professionnels de la santé. Et j'aimerais mentionner que vers la fin de la journée, vers 16h, nous aurons une conférence avec M. Denis Fortier, le physiothérapeute de CHU Sainte-Justine et auteur de plusieurs livres dans la série Conseils d'un physio, qui viendra faire une conférence. Les gens peuvent, s'ils veulent aussi, participer simplement à cette activité-là. Il va y avoir un cocktail qui va suivre. Alors, les gens peuvent aller sur notre site Internet. Quand ils arrivent, là, il y a un petit bouton là, « colloque » qui ont juste à cliquer pour avoir tous les détails, le programme, l'horaire. Et il y aura, bien sûr, des mises à jour régulièrement là, pour plus la date va arriver.
Eh bien, Mme Villeneuve, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter un colloque avec énormément de participants et énormément de communication et d'échanges, parce que ça aussi, c'est important de se former
exactement.
En réseau. Alors, merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup de l'invitation.
Au revoir.
Au revoir.
The duck was quacking. The duck was laughing. The duck was dancing by the water, quack, quack, quack. The rhythm made him think he ought to quack, quack. He was dancing to the samba, the samba, the samba, oh, gusso. The goose was gaining, passing by, honk, honk, honk. He stopped and gave the dance a try, honk, honk. Bossa nova had been dancing, the new thing, the new swing. Then a lovely swan swam by in all her majesty, and she loosened up. Hoochie-coochie-coo did that swan. She joined the duck and goose and did the samba too. You should have seen the kind of samba she could do. They did the samba so long they all fell right in the water.
while they were singing away. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Vinha cantando alegremente, queen, queen, quando uma régua sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o canso. Gostou da dupla, fez também, queen, 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 olhou pro Cici e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa fora, me ensaia para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo de zagato. Jogou de sino com um canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caí na mágoa e ensaiando o vocal. Quen, 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 quen. Quen, 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 quen. Quen, 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 o pato.
Claire Barlow au Pato, un choix de Jean-Sébastien Laliberté qui assure la mise en onde de cette émission d'une main de maître et qui me fait paraître un peu moins bête. Une dernière entrevue aujourd'hui avec deux personnes éminemment intéressantes, Sylvie Gérard. Sylvie Gérard, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va très bien, merci.
Bon, et M. René McKay qui est directeur général de l'Association de la sclérose en plaques de l'Estrie. M. McKay, bonjour.
Bonjour.
Et vous allez bien aussi, j'espère.
Bien sûr.
Difficile de se plaindre aujourd'hui, hein?
Avec la température et tout, c'est magnifique.
On vous a contacté parce que récemment, à Sherbrooke, se tenait une grande course, finalement, de l'Association de la sclérose en plaques de l'Estrie. Course à laquelle, Mme Gérard, vous avez participé à deux titres. D'abord parce que vous soutenez les activités de l'association, mais aussi parce que vous êtes personnellement atteinte par la sclérose en plaques.
Effectivement.
Mm-hmm. Parlez-nous un peu de votre parcours, parce que vous couriez et tout d'un coup, plus du tout.
Oui, effectivement. Moi, j'appelle ça comme une vie, une deuxième vie. Dans ma première vie, j'étais une coureuse aguerrie. Je courais des dizaines de kilomètres par semaine, l'entraînement à fond la caisse. Mm-hmm. Et en 2012, j'ai couru le 5 km du marathon de Montréal. Et une semaine plus tard, j'ai été hospitalisée. Le bas du corps ne répond plus. Je suis paralysée. Ça a duré quelques semaines. Après ça, ça a pris un peu plus d'un an avant que je retrouve la sensibilité complète de mes membres inférieurs.
Et le diagnostic a été posé assez rapidement ou ça a pris un certain temps?
Ça a pris un certain temps. Ça a pris 13 mois parce qu'étant donné que c'était au niveau du bas du corps, c'était pas des symptômes comme, excusez l'expression, éparpillés dans mon corps partout. C'était vraiment asymétrique.
Mm-hmm.
On passait au début au Guillain-Barré, après ça, la maladie de Lyme.
Mm-hmm.
Mais suite J'ai passé un premier IRM où est-ce qu'on détectait des taches au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Et après, ben, ça a atteint tout mon cognitif au niveau de la fatigue, au niveau de la mémoire, au niveau du raisonnement. Et à ce moment-là, j'ai mon médecin de famille qui est convaincu que je suis en dépression parce que ça ressemble un peu à ça. Mais quand je retourne voir la neurologue pour le suivi, je lui explique tout ça. Elle me dit « Wow, minute, avec ce que j'ai vu dans le IRM, avec les symptômes que tu me dis, je demande un deuxième IRM d'urgence.
Mm-hmm. »
Où est-ce qu'ils ont constaté qu'au niveau du cerveau, les tâches avaient doublé et le diagnostic a tombé 13 mois plus tard du début de mes premiers symptômes.
Et tout d'un coup, vous apprenez le mot sclérose en plaques, vous apprenez toutes les conséquences connues de la maladie. Cependant, vous acceptez ou pas votre condition sur le coup?
Aucunement. Aucunement. Moi, je me pensais au-dessus de tout ça. Je me croyais meilleure que tout le monde. J'étais dans le déni total. Pour moi, la vie allait continuer. J'allais pouvoir continuer à me battre. J'allais pouvoir continuer à faire la vie que j'avais auparavant.
Mm-hmm.
Mais les obstacles de la maladie faisaient en sorte que je faisais face à une toute autre réalité.
On parle d'abord de travail. Êtes-vous encore capable de travailler?
Non. Au début, on m'avait déclaré invalide pour mon travail que j'effectuais à ce moment-là.
Mm-hmm.
Après ça, on m'a déclaré invalide pour tout travail rémunérateur.
Mm-hmm.
Fait que ça, c'est une claque d'en face parce que tu te dis, ben, coudonc,
ouais.
Je suis le mot invalide. À ce moment-là, on te déclare invalide. C'est comme, wow, minute, invalide.
Oui, il faut repenser toute sa vie.
Pardon?
Il faut repenser toute sa vie à ce moment-là.
Oui, c'est en plein ça. Puis, toutes les activités que je faisais, j'étais aux études, je travaillais. Comme je disais, je faisais de la course à pied, je m'entraînais régulièrement. Tout ça, du jour au lendemain, je réalise que même si j'ai le vouloir, je suis plus capable de rien accomplir. Mm-hmm. C'est ce que je croyais à ce moment-là, que j'étais plus bonne à rien.
Mm-hmm. Puis la sclérose en plaques, par définition, est une maladie qui a ses périodes de rémission, ses périodes de crise. Ça devient complètement imprévisible. Comment vous faites pour revenir à la course en pratique?
Bien, en pratique, premièrement, avant de s'occuper de son corps, il faut s'occuper de son psychologique.
Mm-hmm.
Et, là, l'association avec par le biais de M. McKay m'a offert des services d'aide psychologique pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe, pour pouvoir apprendre à vivre avec des nouvelles limitations.
Mm-hmm.
Pardon. Pour pouvoir apprendre que, oui, finalement, je suis capable encore de tout faire ce que je faisais, mais différemment. Puis mm-hmm. c'est pas parce que c'est fait différemment que c'est pas accomplir quelque chose.
Oui, on a le droit de s'asseoir pour couper ses carottes. Moi-même, je le fais remarquer.
Oui, bien, c'est ça. Tu sais, je suis capable d'accomplir plein de choses à un rythme différent.
Mm-hmm.
Avant, c'était « OK, je suis capable d'aller là, ben je vais me surpasser parce que je vais pousser la machine. » Maintenant, ben je suis capable d'aller là, ben j'arrête juste un petit peu avant parce que si j'atteins ma pleine capacité énergétique, ben mm-hmm. je risque d'y coûter les jours après. Fait que ça a été une grosse adaptation. Ça a été un remaniement psychologique auquel j'ai dû faire face, dans le fond, pour pouvoir poursuivre. Et après ça, dire « OK, regarde.
Mm-hmm.
Oui, je peux me remettre à faire. Avant, je courais, mais maintenant, je jogue.
Mm-hmm. »
Puis peu importe le nombre de temps que je suis capable de courir ou que ça me prend pour accomplir un kilomètre, ben c'est pas grave. Je l'ai accompli, ce kilomètre-là.
Oui, chaque foulée est une réalisation.
Oui, c'est en plein ça. Puis si je dois marcher parce que mon corps ne veut plus suivre, bien, il faut pas le voir comme un échec.
L'association vous a aussi aidé à faire valoir vos droits. Parce que c'est un des aspects du travail. Dites-nous en pratique, à quoi ça ressemblait dans votre cas particulier? C'est quoi les problèmes qu'on rencontre quand on découvre qu'on a la sclérose en plaques?
Bien, premièrement, c'est nous, je m'en allais dire l'accepter, mais je pense qu'on l'accepte jamais. Mm-hmm. Faire face aussi aux préjugés de la société, aux préjugés de OK, garde la journée que tu apprends, tu es invalide, le monde te voit, tout ça. Tu fais quoi dans la vie? Je fais quoi dans la vie? J'ai pas nécessairement non plus de dire out loud à tout le monde que je suis atteinte de la sclérose en mm-hmm. plaques.
Oui, effectivement. Mais
dire que je travaille pas. Tu sais, fait que c'est plein de il y a les préjugés, c'est ça, au niveau de la société. Il y a des changements que tu dois faire dans ta vie quotidienne, que les membres de ta famille proche et éloignée doivent accepter aussi.
Mm-hmm.
Eux autres aussi ont accepté ta nouvelle condition, qu'ils font parfois maladroitement, que ça aussi, on a à dealer avec tout ça à un moment donné.
Mm-hmm. Monsieur McKay, diriez-vous que le parcours de Mme Girard, c'est un peu emblématique du parcours des membres de votre association?
Bien, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas un cas de sclérose en plaques pareil. Ça, c'est la première étape, la première chose qu'il faut considérer. Deuxièmement, bien, vous savez, grâce à notre plan d'intervention, premièrement, on a fait plusieurs études sur comment vivaient leur sclérose en plaques, qu'est-ce que les gens pensaient. On a fait une étude sur les niveaux diagnostiqués, plus de 3 mois, moins de 2 ans. C'est la première étude en neuropsychologie qu'on a commandité parce qu'on a un fonds de recherche.
Mm-hmm.
Et puis ça nous a permis de comprendre un petit peu qu'est-ce qui arrivait dans la vie, comment on vivait certains deuils. Ce que Mme Girard a vécu, c'est un parcours, je dirais, emblématique. Ce qui est très important, c'est que, tu sais, dans le cadre de notre programme de psychologie, ce qu'on a essayé de lui enseigner dans notre thérapie qu'on fait avec les gens de 12 à 16 rencontres, on a essayé de faire en sorte qu'elle puisse croire en elle.
Mm-hmm.
Et puis ça, c'est le premier pas, je dirais, vers une amélioration de la condition des personnes atteintes. Là.
Et l'événement, la course, parce que ça avait lieu au début du mois, ça a été un franc succès, donc?
Oui, c'était un très, très grand succès. La grande course se déroule dans le stade, à partir du stade de l'Université de Sherbrooke. En fait, c'est que tous les fonds qu'on amasse à la grande course, on mm-hmm. les réinvestit dans notre fonds de recherche en sclérose en plaques à la faculté de médecine.
Parce que le grand public est invité à participer à la course et à s'inscrire moyennant des frais tout à fait raisonnables.
Exactement.
Mm-hmm. Pardonnez les obsessions comptables d'un animateur, ça a rapporté combien cette année?
Bien, en fait, la grande course, et cette année, c'était la 3e édition, mais sa 2e vraie édition. Cette année, on pense qu'on va être encore capable c'est un événement en croissance. On a eu cette année 630 participants. L'année prochaine, on devrait en avoir plus. Cette année, on devrait réinvestir encore 6 000 par le biais de cet événement-là dans notre fonds de recherche à la faculté de médecine,
mm-hmm.
dont notre sujet est la connexion neuronale.
Oui, et ici, c'est important de le dire, en matière de sclérose en plaques, la recherche est pour envisager un traitement, voire une guérison, c'est pas exclu, là. Ça avance.
Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que, tu sais, pour vraiment penser un jour être capable d'éradiquer cette maladie-là, il faut essayer de la comprendre. Mm-hmm. Et je dois vous dire que je suis pas certain qu'on la comprenne bien, cette maladie-là.
Mm-hmm.
On voit les impacts, tu sais, par le biais de résonance magnétique. On sait que la connectivité neuronale, effectivement, c'est déficient chez les personnes atteintes de sclérose en plaques.
Oui, on parle de la perte de la myéline qui isole les nerfs, et donc ça fait en sorte que les connexions électriques se touchent.
En fait, il y a des gens de petits courts-circuits, si on peut appeler ça comme ça, vulgairement parlant, mais d'une certaine façon, par le biais de certains types d'exercices, on réussit à faire passer le courant, si on peut dire, Et puis, c'est ça qu'on comprend pas vraiment encore pourquoi que, tu sais, normalement, ça devrait plus passer, puis là, ça repasse, tu sais.
Mm-hmm.
Alors, fait que nous, dans nos recherches, ben, tu sais, on étudie toutes ces fonctionnalités-là. Là.
Et à Sherbrooke, c'est particulièrement actif dans ce secteur-là?
Ben, nous, à l'Association de la cirrhose en plaques de l'Estrie, on est très, très actifs. On est très dynamique et on a mis en place un plan d'intervention pour aider les personnes atteintes.
Mm-hmm.
Comme Sylvie. Et puis, ben, on voit par le résultat, vous en avez un exemple vivant aujourd'hui en entrevue, que ce plan d'intervention-là fonctionne.
Oui, et c'est aussi une manière de vivre ensemble plutôt que séparément, juste avec sa maladie, de se résumer à ce dont on souffre plutôt qu'à être une vraie personne.
Oui, souvent les personnes atteintes ont tendance à s'isoler. Mais ce qui est important, c'est justement, il ne faut pas s'isoler, mais d'un autre côté, il faut s'intégrer dans la société et non pas se rassembler, puis comme on dit souvent, pleurer sur nos vieux trucs, mais plutôt regarder par en avant et voir ce qu'on est capable de faire puis ce qu'on veut faire.
Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va devoir se quitter, notre temps étant déjà expiré. Madame Gérard, Monsieur Mekki, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin.
Bien, ça fait plaisir, merci.
Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Au revoir.
Merci. Bye bye.
Et voilà qui met fin à cette émission et à ma participation personnelle à cette émission, puisque Clotilde reprendra le micro demain. On remercie Sylvie Rivard, Clotilde Seille à la recherche et évidemment Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Au revoir.